Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. Le chant qu'on vient de chanter a approximativement 500 ans. Au Québec, là, on est tous fiers. Hey, Montréal a 375 ans. C'est incroyable. Et on fête ça partout dans les rues. Puis, d'une certaine manière, c'est bon. C'est utile de se souvenir de notre histoire, de notre héritage. Mais là, rendez-vous compte que ça fait 500 ans. Il y a 500 ans de cela, des hommes, Martin Luther notamment, qui ont composé ce chant, a dit « ta grâce est la plus forte » et qui a été immortalisée d'une certaine manière dans ce chant dont on a aujourd'hui hérité en tant qu'Église de l'espoir. C'est important de se souvenir de ce moment-là de la réforme parce que ça touche le cœur et la vérité du message de l'Évangile, le message que l'humanité a reçu de la part de Dieu. Tout au long du Moyen Âge, la foi chrétienne, la nature de la foi chrétienne a été malmenée par de différentes sortes. Et ce qu'on veut faire d'une certaine façon avec la série qu'on est en train de faire en ce moment, c'est se souvenir qu'au début du 16e siècle, il y a un mouvement spirituel qui est né où la vérité de Dieu a émergé d'une certaine obscurité qui était même vécu au sein même de l'Église. On veut se réjouir qu'il y a 500 ans de cela, on a redécouvert l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on a intitulé la série dont on est en ce moment à notre troisième semaine, « Je me souviens », on connaît bien ça au Québec, hein, c'est notre devise, « Je me souviens 500 ans d'un Évangile renouvelé ». Un Évangile où des hommes et même des femmes ont pris le message de la Bible et l'ont rendu tel quel. Des hommes et des femmes qui, au péril de leur vie, se sont battus bec et ongles pour défendre la vérité de l'Évangile, le message de Dieu pour l'humanité. Et d'une certaine manière, ce message-là, sur quoi il était fondé? C'était quoi l'épine dorsale un peu sur lesquelles ce mouvement-là est né? Eh bien, il y avait cinq expressions. On a vu au début de la série le concept du « sola scriptura », les Écritures seulement. Les Écritures sont suffisantes et entièrement complètes pour me parler de qui est Dieu, de qui je suis et de qu'est-ce que j'ai besoin pour entrer en relation avec lui et être capable de le faire sur une base de paix. Seulement les Écritures peuvent me donner accès à cette vérité. La semaine dernière, on a vu le concept du « sola fide », seulement la foi. C'est par la foi seulement que Dieu peut, d'une certaine manière, entrer en relation avec moi. Par ma foi, qui est reconnue ici comme un cadeau de Dieu, on a vu la semaine passée, par la foi, Dieu me permet d'entrer en communion avec son Fils Jésus-Christ, qui sur la croix a été mort, a été exécuté, a subi le jugement de mes fautes pour me permettre d'avoir accès à une vie nouvelle, d'avoir accès au pardon. C'est par la foi que je peux entrer en relation avec Dieu. Ce matin, on va voir un troisième concept, un troisième sola, qui s'appelle tout simplement sola gratia. Sola gratia, seulement par la grâce. C'est de cette manière-là que Dieu entre en relation avec nous. Ça, c'est le résultat du cadeau que Dieu me fait du principe de la foi. Dieu me permet de croire en lui. On a vu la semaine passée que la foi, c'est répondre à un appel irrésistible que Dieu a déjà fait envers moi. Ce n'est pas moi qui va cogner vers Dieu, c'est lui qui vient cogner vers moi. Et que, d'une certaine manière, ma réponse à sa faveur, au fait que c'est avancé vers moi, à travers son Fils, eh bien, ça produit un résultat. Il entre en relation avec moi sur une base de grâce, sans que je n'aie aucun mérite. Sans que je n'aie aucun mérite, Dieu décide tout simplement d'établir un nouveau type de rapport avec l'être humain. Il le réconcilie avec lui-même sur la base de la grâce. Et ce matin, pour nous donner un aperçu de qu'est-ce qu'on entend exactement par ce terme-là, qu'est-ce qui se cache derrière ce principe théologique dans lequel parfois on croit, mais qui est souvent utilisé à toutes les sauces, je vais laisser ce matin Dani nous lire un texte dans l'Épître de Galates, l'Épître de Paul aux Galates, au chapitre 2, les versets 15 et 16. Donc, je vais lui laisser la parole.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Galates, le chapitre 2, les versets 15 et 16, dans l'édition Second 21. Alors, Galates, chapitre 2, les versets 15 et 16. Nous, nous sommes des Juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi.
Merci, Danny. Moins de job un peu ce matin, deux petits versets, mais des versets qui sont d'une grande importance pour nous en tant que croyants. Merci, Danny, pour la lecture de ce passage qui, d'une certaine manière, nous montre de manière assez claire, même si le mot n'y est pas, qu'est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de la grâce de Dieu. De quoi est-ce qu'on parle, Miguel? Lorsque je dis que Dieu me fait grâce, lorsque Dieu s'avance vers moi dans un mouvement de grâce, comment est-ce que je dois comprendre ça, moi, en tant qu'être humain? Comment l'humanité doit essayer de saisir ce concept-là qui est tellement important par rapport à la dimension de la vérité de Dieu telle que enseignée et inscrite dans les Écritures? Eh bien, si on voulait résumer le tout, si on voulait résumer ce que le passage vient de nous dire, on pourrait dire ceci, et c'est un peu le modèle sur lequel, la proposition sur laquelle on va s'avancer ce matin, et ce qu'on pourrait dire, c'est résumer simplement le passage de la manière suivante, c'est qu'il n'y a rien en nous, il n'y a rien en nous qui mérite la faveur de Dieu. La vie qu'il désire nous donner, nous ne pouvons la recevoir qu'en se confiant en lui. Je répète la proposition. Il n'y a rien en nous qui mérite la faveur de Dieu. La vie qu'il désire nous donner, nous ne pouvons la recevoir qu'en se confiant en lui. En d'autres mots, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'être humain ne peut pas aimer et choisir Dieu sans que lui-même n'ait déjà avancé vers lui, sans que Dieu ne l'ait tout d'abord aimé. C'est à lui que revient l'initiative de la réconciliation, du pardon et de la paix qui est possible de savourer en lui. Et nous avons fondamentalement besoin que Dieu s'avance vers nous dans sa grâce avant de nous-mêmes essayer ou tenter de lui plaire, avant même de tenter de le servir. Dieu nous dit que avant même d'essayer de m'impressionner par tes actions, ce qu'en fin de compte, tu ne seras jamais capable de faire, commence tout d'abord par une chose. Savoure et crois le fait que tout d'abord, je me suis avancé vers toi. Et ce que le texte, d'une certaine manière, nous dit, c'est que pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas tout d'abord aimer Dieu, puis que ce soit moi qui en ai le mérite, que ce soit moi que je puisse m'enorgueillir du fait que je me suis avancé vers Dieu, puis que ce soit tout d'abord sa grâce à lui qui soit à l'avant-première place? Qu'est-ce qui fait que les choses sont comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça correspond à la logique, à la réalité? Eh bien, le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est que, tout d'abord, la grâce de Dieu est élémentaire parce que l'être humain ne peut pas gagner ce que Dieu seul a le pouvoir de lui donner. C'est impossible de gagner ce que Dieu désire nous donner tout à fait gratuitement. À l'époque de Luther, ce qu'on croyait, à l'époque de la Réforme, ce que l'Église croyait, c'est que la manière dont je peux m'attirer le regard favorable de Dieu, c'est un peu comme à la petite école. À quel moment est-ce que je reçois une bonne note à l'école? Eh bien, lorsque je performe, lorsque j'ai une bonne conduite, lorsque je réussis aux examens. Alors, à l'époque de Luther, ce que l'Église croyait, c'est que je peux impressionner Dieu en ayant une bonne conduite. Je peux tenter de mériter ce que Dieu peut lui-même me donner, c'est-à-dire le salut. Et ce qu'on voit d'une certaine manière, c'est que ça l'attaque directement ce qu'on vient de voir. Le salut n'est plus perçu comme une faveur ou quelque chose que je reçois, comme une faveur que Dieu me donne, mais plutôt comme un mérite. Pourtant, regardez ce que nous dit le verset 16. Galates 2:16. Nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Le mot ici qui est d'une importance capitale et sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le mot « justifier ». Le mot « justifier » ici, dans le contexte, possède une valeur légale, une valeur judiciaire. Et d'une certaine manière, voici comment on pourrait le définir. Le fait d'être justifié est un acte gracieux de la part de Dieu. C'est un acte qui est gratuit, qui, sur la base de notre foi envers ce qui a été accompli à la croix, déclare quelqu'un de coupable comme étant juste. Ce qu'on voit ici, c'est que contrairement à ce que pensaient l'Église et les gens à l'époque de la Réforme, Dieu n'est pas un être impressionnable. Dieu n'est pas quelqu'un qui s'attend de l'être humain qu'il performe, comme on a vu un peu la semaine passée. Dieu est plutôt quelqu'un qui cherche à nous impressionner. À nous impressionner comment? Bien, simplement en s'avançant vers nous de manière grandiose, sans qu'on mérite quoi que ce soit. Dieu est un être qui est saint, un être qui est pur, un être qui est glorieux. Est-ce que vous pouvez en dire tout autant? Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre propre personne? Je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous, mais pour moi, personnellement, disons que devant des mots comme ça, j'ai juste envie de me cacher 6 pieds sous terre, parce que je ne fais pas le poids. Et pourtant, la grâce de Dieu nous dit que face à ce mouvement-là, Dieu s'avance vers nous en envoyant son Fils. En envoyant son Fils pour accomplir ce que je suis incapable de faire, étant donné que je suis inapte de m'approcher de Dieu, eh bien, Dieu dit, bien, parfait, écoute, bonhomme, je sais très bien que tu te sens indigne de t'approcher de moi. Parfait, il n'y en a pas de problème. Moi, je vais m'avancer vers toi. Je vais m'avancer vers toi sans que tu le mérites, dans un geste de grâce. Et la vie que Dieu désire nous offrir peut donc non seulement être quelque chose dont on peut bénéficier, mais c'est tellement important de comprendre qu'il s'agit simplement d'une grâce irrésistible. Sans cette grâce-là, sans ce mouvement-là de Dieu vers moi, je ne peux rien faire. Regardez par exemple ce que nous dit l'Évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 36. C'est Jésus qui parle lorsqu'il nous dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Qu'est-ce qu'on voit ici? Si donc le Fils vous libère, à qui revient l'initiative ici du fait que je peux réellement savourer une liberté face au fait de m'approcher de Dieu? Eh bien, c'est le fait que Dieu a tout d'abord pris les devants moi de manière gracieuse. À l'époque de Martin Luther, on affirmait la chose suivante. Dieu ne peut pas sauver l'être humain sans lui et malgré lui. On croyait fermement que l'être humain pouvait collaborer d'une certaine manière à son propre salut, que ce soit de différentes manières. Et c'est à ce message-là que la réforme va s'attaquer et dans lequel on croit profondément ici à l'Église de l'Espoir. C'est-à-dire que si je peux m'avancer vers Dieu, ce n'est pas en faisant des bonnes actions, ce n'est pas en étant sur la coche avec ma femme, avec mes enfants, avec mon voisin, avec mon patron, ce n'est pas en performant que je vais arriver à la hauteur d'un rapport d'égalité avec Dieu. C'est tout simplement en savourant qui il est et la grandeur de la grâce qu'il nous offre d'entrer en contact avec lui. Si Dieu me permet d'être justifié, cela ne peut pas provenir de ma propre nature, de mes propres actions. Cette justice ne peut que m'être imputée. On l'a vu la semaine passée, la foi ne peut que m'être transmise à la croix parce que Jésus a développé le fait simplement que, écoute, je sais très bien que tu veux entrer sur une barge de justice avec moi, mais tu ne le pourras pas. Alors moi, je vais l'accomplir à ta place. Je vais aller mourir sur une croix, porter la lourdeur de tes péchés pour être capable simplement que tu puisses rentrer dans un nouveau type de rapport avec moi, une nouvelle vie. Et c'est ce que Dieu veut nous donner par grâce. Il veut nous donner la vie de son Fils. Une vie qui est remplie de la grâce de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé personnellement de faire grâce à quelqu'un? D'offrir votre grâce à quelqu'un. Je suis convaincu que vous auriez tous peut-être des anecdotes. Vous dites, oui, Miguel, je me rappelle que j'ai subi telle affaire, tel affront au travail. J'ai décidé de passer par-dessus l'offense puis de faire grâce à la personne, simplement de lui pardonner. Puis je suis convaincu que vous auriez des exemples fabuleux à m'offrir, ou est-ce que vous avez déjà offert votre grâce, quelque chose à quelqu'un qu'il ne méritait pas? Mais vous savez, au fond de nous-mêmes, on s'aperçoit souvent que la grâce que l'on offre aux gens autour de nous est très différente de celle de Dieu. Je me rappelle d'une couple d'années de cela, ça fait quelques années, il y avait un couple de mes amis qui avait 4 enfants. Le père perd subitement son emploi. Et là, il se retrouve dans une situation assez précaire. Et Laurent puis moi, à l'époque, on avait un petit enfant, un petit poupon, puis on avait juste Louis-Jacob, qui a aujourd'hui 12 ans, puis à l'époque, c'était un bébé. Puis on s'est dit, écoutez, ça va bien nos affaires, Laurent puis moi. Là, on avait à cœur d'offrir une épicerie pour une semaine à cette famille-là, une famille de 5, il y avait 4 enfants. Fait qu'on dit, bien, écoute, voici, on t'offre ça, on t'offre un panier d'épicerie, puis on achète un coupon rabais d'une épicerie pour venir simplement leur venir en aide. Là, la personne, elle n'en revenait pas. Elle dit, écoute, Miguel, tu viens d'avoir un bébé, tu as vraiment besoin de cet argent-là pour être capable de bien t'occuper. Je dis, écoute, fais-toi-en pas, là. Elle dit, ça va bien de ce côté-là. Fais juste accepter. C'est juste un geste de grâce de ma part. Est-ce que vous croyez que c'est un geste de grâce? Est-ce que la personne méritait de recevoir ce panier d'épicerie-là? Bien, elle n'avait, d'une certaine manière, elle ne le méritait pas, parce que pour moi, c'est simplement un geste gratuit que je faisais envers elle. Est-ce que c'était vraiment un geste gratuit? Puis là, je me disais au fond de mon cœur, peut-être que pour vous, ça peut le sembler, bien écoute, Miguel, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as simplement reflété la grâce de Dieu, de t'avancer vers quelqu'un juste par solidarité, juste par amour, juste par soutien pour elle, puis d'en prendre soin. Mais vous saviez, c'est quoi qu'il y avait dans ma tête à ce moment-là lorsque j'ai offert le panier d'épicerie? Moi, je savais que pendant l'été, là, j'avais un toit à refaire. Puis je savais très bien que le monsieur en question, là, ben c'était un spécialiste puis qu'il n'était pas à son premier toit à refaire. Fait que, d'une certaine manière, ce que j'essayais de faire, c'est que oui, c'est un geste de grâce, mais en même temps, j'essayais de gagner sa faveur, qu'il soit disponible pour pouvoir m'aider lorsque le moment serait venu. C'est comme de construire quelque chose avec lui pour que finalement, il m'en doive une comme... Mais tu sais, c'est comme par la bande, tu sais. Est-ce que vous pensez tout le temps que c'est un geste de grâce que je faisais? Maintenant, essayez de comprendre que la grâce que Dieu nous offre, la grâce que Dieu nous offre est complètement désintéressée de sa part. Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir son plan. Bien sûr, il nous utilise, mais au bout du compte, il n'en a pas besoin. Donc, lorsqu'il vient vers nous, qu'il s'avance vers nous de manière irrésistible en nous envoyant Jésus sur la croix et qu'il le fait ressusciter des morts, c'est pas parce que, bien, au bout du compte, je sais que ça va mettre mon esprit dans eux puis que finalement, ils vont pouvoir construire mon royaume sur la terre. Écoutez, Dieu n'agit pas de cette manière-là pour sa grâce. Dieu ne nous manipule pas. Dieu agit vers nous de manière complètement désintéressée, contrairement à moi dans l'épisode que je viens de vous raconter. Mon cœur n'était pas désintéressé dans cette affaire-là, mais le cœur de Dieu, lui, il est tellement. Il s'avance vers nous sans qu'on ne mérite quoi que ce soit. Et le salut qu'il nous offre est seulement par la grâce. C'était là que le message que Martin Luther voulait donner à l'humanité, à toute l'Europe, à l'Allemagne de l'époque. Une invitation de Dieu qui est simplement somptueuse et invitante. Une grâce irrésistible. Et ce que nous dit également l'Épître de Galates, comme deuxième point, c'est que non seulement la grâce de Dieu est quelque chose que je ne peux pas mériter parce que Dieu seul peut me le donner, mais que la grâce de Dieu est également un geste qui nous déclare juste. Si Dieu est capable de jeter un regard favorable sur moi, c'est parce que c'est fondé sur un acte de jugement. Je suis coupable et Dieu envoie son Fils subir sa colère que moi je mérite pour m'accorder quelque chose que nous ne méritons pas, c'est-à-dire le pardon et la paix, une réconciliation avec lui, mais où c'est lui qui fait tout. Il juge et à la fois il subit le jugement. Et sur la base du fait qu'il a pris sur lui ce jugement, maintenant, Dieu est à la fois un juge et est à la fois celui qui subit le jugement. Et de cette manière-là, il a donc le pouvoir de me déclarer juste. Parce que l'offense, à ce moment-là, comme on voit dans Galates, elle est complètement prise par Jésus-Christ, qui meurt sur la croix. C'est comme, d'une certaine manière, c'est un geste par lequel un être supérieur et saint se penche sur quelqu'un d'inférieur et coupable pour lui donner gracieusement un bien qui est non mérité. Regardez ce que nous dit la suite du verset 16 dans Galates. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur les bases de la foi en Christ et non comme des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Ce que Dieu dit ici, c'est que, d'une certaine manière, il n'y a qu'une manière de marcher dans la justice, d'être rendu juste devant Dieu. Et cette manière-là, c'est que Dieu le déclare sur nous, que ce soit lui-même qui exécute le jugement, qu'il le prenne sur lui pour pouvoir nous déclarer justes. C'est ce que le fait de la grâce nous permet de devenir, des êtres déclarés justes. Il y en a parmi vous qui connaissent le groupe de musique Yatal? C'est ce que veut dire le mot Yatal, déclarer juste. C'est la conjonction de deux mots amérindiens qui signifie simplement déclarer juste. C'est un verdict que Dieu pose sur moi de manière définitive. Dieu dit, OK, Miguel, OK, Église de l'espoir, je vous déclare saint, je vous déclare juste parce que Christ a subi ce que vous deviez subir pour être pardonné. Maintenant, parce que je vous déclare juste, vous allez progressivement apprendre à marcher et vivre d'une manière juste. C'est ce que fait la grâce. Elle nous déclare juste pour que nous marchions par la suite d'une manière pleinement rempli de la justice de Dieu. Au début du 16e siècle, à l'époque de Luther, on croyait qu'il y avait deux choses à distinguer dans la grâce de Dieu. Il y avait tout d'abord l'agir de Dieu sans l'homme. C'est-à-dire que Dieu envoie son Fils Jésus-Christ mourir à la croix et il le ressuscite, et ça, l'homme là-dedans n'a rien à voir. Mais dans la grâce de Dieu, on croyait également qu'il y a aussi le agir de Dieu avec l'homme, où l'homme, par sa foi, s'approprie ce que Dieu ou ce que Jésus-Christ a exécuté sur la terre, c'est-à-dire la satisfaction de la colère de Dieu et la résurrection. Donc, on croyait fermement, l'Église croyait fermement à l'époque de Luther, début de la Réforme, que l'être humain, par sa foi, par sa générosité, par ses dons, par ses indulgences, pouvait collaborer à son salut. Est-ce qu'on peut vraiment parler ici d'un message de grâce? C'est ce qu'on veut célébrer ensemble ce matin. Qu'on ait été délivré de cette prison des œuvres de la loi qui nous approche de Dieu. On a été délivré grâce à des hommes, des femmes, un message extraordinaire qui nous dit que Dieu nous déclare juste en Jésus-Christ par la foi et par la grâce seulement, d'une manière gratuite, sans qu'aucun mérite ne nous soit imputé. Ce qui est intéressant à travers la dimension ici qu'on voit, c'est que si je mérite quelque chose dans mon salut, est-ce que je peux vraiment être certain alors et sûr que ça va être entièrement suffisant pour payer mon ticket au paradis? Est-ce que je peux être certain de mon salut si le fait que je suis sauvé repose sur ce que je fais moi-même? Je n'ai pas été élevé dans une famille avec une... Je n'ai pas été souvent à l'Église catholique, à quelques reprises, mais une des choses, moi, qui me bouleverse, c'est à quel point les croyants dans l'Église catholique sont tellement incertains de leur salut. Ils ne savent pas où ils vont après la mort. Pour beaucoup, certains le croient, ils en ont une ferme conviction et c'est bien documenté, ils sont capables de le croire pour les bonnes raisons, mais la plupart n'ont aucune assurance de où ils vont aller après la mort. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils se demandent toujours, est-ce que ça va être assez? Est-ce que j'ai assez d'argent dans mon portefeuille en bonnes actions et en bonnes œuvres pour mériter le fait que Dieu m'accepte dans son ciel? C'est comme ça que l'Église catholique pensait au Moyen Âge et c'est beaucoup comme ça qu'elle pense encore aujourd'hui. Et une des raisons pour laquelle aujourd'hui je peux être assuré et pleinement convaincu de l'assurance de mon salut, c'est que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de la grâce de Dieu. Ça dépend de l'œuvre parfaite que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Le travail de Dieu, c'est de nous rendre justes, de nous déclarer justes pour qu'ensuite nous apprenions à marcher près de lui pour devenir de plus en plus justes. Est-ce que vous avez cette conviction personnelle de votre salut dans la grâce de Jésus-Christ? Et si vous l'avez, comment est-ce que cette grâce-là s'exprime? Comment est-ce qu'elle se manifeste dans votre vie, dans votre relation avec votre époux, avec votre employeur, avec vos enfants? Comment est-ce que cette grâce-là de Dieu illumine chaque portion, chaque espace de votre cœur, de notre vie? Dans Romains 3, 34, 33 et 34, l'apôtre Paul nous dit ceci. « Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Qui va accuser ceux que Dieu a sauvés? Qui va accuser ceux que Dieu a déclarés justes? C'est Dieu qui les déclare justes. C'est la job de Dieu, ça. C'est pas à nous. Et parfois, c'est facile de tomber dans le piège de la performance et de la religion, de la loi qui performe. Mais notamment avec nos enfants, ceux qui ont des jeunes enfants, là, vous allez certainement me comprendre. Quand on voit des enfants qui se lèvent le matin, le plug, c'est le free-for-all, puis ils disent « Attends une minute, là, tu dois faire ça, 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 puis après ça, c'est ça, 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 puis non, tu ne dois pas faire telle chose parce que ça, c'est mal. » C'est tellement facile, d'une certaine manière, de tomber dans le piège du légalisme. Puis c'est bien de reprendre nos enfants sur ce qui est mal, mais est-ce qu'on investit autant de temps à leur dire ce qui est mal et à les reprendre qu'à leur expliquer pourquoi c'est mal? Et à s'investir et à leur montrer que même lorsqu'on agit d'une manière qui n'est pas nécessairement tout le temps sur la coche avec eux, est-ce qu'on est capable de leur expliquer l'Évangile à travers tout ça? Et leur exposer la grâce de Dieu. Est-ce qu'ils voient papa ou maman qui sont constamment avec des exigences envers eux? Ou est-ce qu'ils sont également voir un papa et une maman qui sont capables d'agir avec grâce, tout en les éduquant et en leur montrant de quelle manière quelqu'un qui place sa confiance en Jésus-Christ est également une lumière de justice. Ce qui est incroyable dans la grâce de Dieu, c'est que tout est soigneusement planifié par lui. Il a le pouvoir de non seulement nous déclarer justes, mais c'est là mon troisième point ce matin, Dieu également, la grâce de Dieu nous conduit également vers une vie qui est plus juste. Dans le grand mouvement de grâce que Dieu vient vers nous, une grâce qui est infinie, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous donne ce qu'il nous ordonne. Dis Miguel, il me semble qu'il y a une contradiction là-dedans. Là. La grâce est supposée être gratuite, puis Dieu s'avance vers nous de manière imméritée, mais en même temps, Dieu nous ordonne aussi de faire certaines choses. Donc, écoute, là, je ne comprends pas. Est-ce que je performe ou je ne performe pas? Et où la grâce de Dieu là-dedans? Là? Dieu a des exigences envers moi, mais en même temps, il désire entrer avec moi dans un rapport de grâce. C'est par grâce que je suis sauvé, pas par des ordonnances. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que la grâce de Dieu est tellement grande qu'elle nous donne ce qui nous permet d'accomplir la justice de Dieu et tous les commandements qui viennent ne sont nécessairement qu'un fruit de sa grâce. Dieu nous rend capables de ce que nous étions autrefois incapables. En acceptant le message de Jésus-Christ, l'Évangile, le fait que Christ est mort à la croix et ressuscité, je suis maintenant capable d'accomplir des choses dont j'étais auparavant impuissant. Auparavant, moi j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 18 ans, avant là, j'étais incapable, mais je vous dis incapable de respecter l'autorité de mon père. Quand mon père me disait quelque chose, j'étais très souvent en constante contestation avec lui, sur n'importe quoi. Au moment où Dieu est entré dans ma vie, il est arrivé quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que j'ai perçu que cette autorité que possédait mon père sur moi, elle lui avait été léguée par Dieu. Dieu lui avait donné un certain pouvoir, une certaine autorité et un certain respect que je lui devais, et ça a complètement changé ma relation avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai vu que mon père n'était pas là pour simplement me mettre des bâtons dans les roues, mais que Dieu se servait de lui pour qu'il ait une influence sur ma vie, une bonne influence constructive. Ça a changé mon rapport avec mon père. Dieu nous accorde la grâce de pouvoir accomplir ce qui est saint, juste et parfait dans nos vies. Comment est-ce que Dieu fait ça? Eh bien, il nous fait encore une grâce extraordinaire. Il nous donne son Saint-Esprit. Par son Saint-Esprit, Dieu fait non seulement nous déclarer justes en venant habiter en nous, mais il nous donne la possibilité d'agir également de manière très juste. Encore là, le fait d'agir de manière juste et sainte est une grâce que Dieu nous donne. Ce n'est pas un poids, c'est un cadeau qu'il nous offre de faire le bien autour de nous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Ézéchiel? Ézéchiel, le fameux prophète de l'Ancien Testament qui a vécu tellement plusieurs centaines d'années avant Jésus. Eh bien, voici ce qu'Ézéchiel nous dit à ce sujet au chapitre 36, verset 25, où est-ce que Ézéchiel parle dans un temps futur et il va nous parler d'une certaine manière de qu'est-ce qui va arriver lorsque Jésus va arriver sur la terre et qu'est-ce qu'il va faire avec son peuple. Alors, voici ce qu'Ézéchiel nous dit. Il nous dit que « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, après que j'ai mis votre esprit en vous, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. L'obéissance est un fruit de la grâce de Dieu. L'obéissance est un fruit de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir d'accomplir ce qui est bien, ce qui est juste et parfait. Le fameux commentateur William Hendrickson dit ceci, « Les bonnes œuvres n'ont jamais justifié personne, mais la personne qui l'est vraiment ne veut pas être trouvée sans elle. » Un croyant n'est jamais justifié par ce qu'il fait, mais il ne veut pas être trouvé par Dieu sans le fruit de sa grâce, qui sont les œuvres qu'il a d'avance préparées pour nous. En étant justifié par grâce, on reçoit un statut, une identité qui nous bouleverse complètement, une identité qui fait que j'entre en relation avec Dieu sur une base de paix, je deviens un être réconcilié avec lui, ce qui est une fruit de sa grâce et sachant ce qui je suis. Regardez par exemple ce que nous dit Galates, chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Parce que quelqu'un a déjà performé pour moi. Ça devrait simplement changer ma nature d'entrer en contact avec le Créateur de l'univers. Galates 5,4 nous dit également, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Mes amis, si on peut aujourd'hui refléter la beauté, la générosité, l'entraide, la solidarité, la compassion autour de nous, c'est à cause de qui? C'est à cause de quoi? D'où est-ce que le bien qui est en nous provient? De quelle manière est-ce que je peux vraiment être assuré que dans ma vie, c'est Jésus-Christ qui est le centre de toutes les grâces que je peux faire aux gens autour de moi. Vous savez, plus la grâce de Dieu nous remplit, plus nous pouvons la vivre et la transmettre. Plus j'ai conscience que je suis un être qui vivait dans les ténèbres et que maintenant je vis dans l'admirable lumière de la foi en Jésus-Christ, plus j'ai conscience de cet espace qui me séparait de lui, plus je peux mieux savourer qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour moi et l'immense distance qu'il a fait, qu'il a parcouru, toutes les horreurs qu'il a subies pour que je puisse maintenant, moi, refléter la grâce dont il est l'auteur, dont il est l'origine et la source. C'est ce que voulait Martin Luther. C'est ce que voulait tout le message de la Réforme. Il voulait vouloir mettre de l'avant-plan la grâce absolue de Dieu. Une grâce dont jamais on ne peut être tari. Une grâce dont on ne peut être qu'émerveillé. Simplement de dire, Seigneur, je suis tellement rien face à toi, et toi, tu es tellement tout. Et pourtant, dans la totalité de la perfection que tu es, tu t'avances vers moi. Comment est-ce que je pourrais maintenant dire au monde autre chose que le message que tu m'as toi-même donné? Un message de grâce. C'est là le message qu'on a hérité de la Réforme. Ici, 500 ans plus tard, ici à l'Église de l'Espoir. Un message fondé sur la grâce unique et absolue de Dieu. Sola gratia. Je vais inviter le groupe de louanges à bien vouloir s'avancer. Ce matin, ce que j'aimerais vous conclure avec vous, c'est comment vous approchez cette grâce-là de Dieu dans votre vie personnelle à chaque semaine. Premièrement, c'est quand la dernière fois que vous avez remercié, loué et adoré Dieu pour cette grâce-là qu'il vous a donnée. Souvent dans nos prières, on arrive avec nos besoins. Seigneur, il faut que tu répondes à ça, je sais que tu es tout puissant. On croit facilement dans le fait que Dieu est souverain, qui veut s'occuper de nous, qui est notre berger, qui veut nous prendre sur ses épaules, qui veut... Mais à quel moment dans la semaine, vous avez adoré pour la première fois Dieu comme étant simplement un être de grâce? Un point, c'est tout. Prendre un 10 minutes, un 15 minutes, simplement pour savourer et adorer le fait que Dieu est un être de grâce. Maintenant, quel est le moment également où vous avez vu quelqu'un être pour vous, ou vous-même être pour quelqu'un d'autre, ce que Dieu est pour vous, c'est-à-dire un élément de grâce? Quand est-ce que votre employeur, votre femme, votre enfant, quand est-ce que vous les avez vus pour la dernière fois comme un cadeau de Dieu pour vous? À quel moment vous avez été vous-même un cadeau de Dieu pour la vie de quelqu'un d'autre autour de vous? Un acteur de grâce. Ce qui est extraordinaire avec Dieu et sa grâce, c'est que non seulement il se contente qu'on en soit des bénéficiaires, mais il veut qu'on en devienne des acteurs. Des acteurs qui miroitent, qui il est. On va se courber dans un moment de prière. Seigneur Dieu, on veut te remercier ce matin, venir vers toi pour mettre les genoux devant toi et adorer, Seigneur, ta grâce infinie envers nous. Tu es un Dieu, Seigneur, tellement puissant, souverain, totalement grandiose, et pourtant, tu t'avances vers nous qui ne méritons rien. Tu t'es avancé avec splendeur, Seigneur, supportant les misères de la terre, afin de pouvoir venir à notre rescousse, nous réconcilier avec toi, sans qu'on ne mérite quoi que ce soit. Seigneur, béni sois-tu. Reçois notre offrande ce matin qui veut s'élever vers toi et dire, Seigneur, c'est par grâce seulement que je suis sauvé. Et c'est par grâce seulement que je veux construire ma relation avec toi. Ainsi, je vais quitter le siège des performances pour pouvoir m'asseoir dans le fauteuil absolument incroyable de ta grâce. Que tu puisses me consoler lorsque tu as à le faire et me rendre puissant lorsque vient le moment d'accomplir le bien. Merci Seigneur éternel. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, en qui nous reposons, Seigneur, ce mouvement de grâce que tu as eu vers nous.